Chapitre 9. Du beurre et sa biche. Le fou s'en vint à Castelserre durant la 17e année du règne du roi Subtil. C'est l'une des rares certitudes que l'on ait à son sujet. Cadeau des marchands de Terrilleville, a-t-on dit, le fou et son origine ne peuvent donner lieu qu'à des conjectures. On a raconté sur lui bien des histoires. L'une d'elles prétend qu'il était prisonnier des pirates rouges et que les marchands de Terrilleville le leur arrachèrent. Une autre, qu'il fut trouvé tout bébé, dans un petit bateau, abrité du soleil par un parasol en peau de requin, et protégé des bancs de nage par un berceau de bruyère et de lavande. Mais tout cela peut être écarté comme pure chimère, et nous n'avons nulle connaissance réelle de la vie du fou avant son arrivée à la cour du roi Subtil. Le fou est probablement né de l'espèce humaine, mais pas d'ascendance purement humaine. Les légendes qui le disent issues de l'autre peuple sont presque sûrement fausses, car ses doigts et ses orteils ne sont pas palmés, et il n'a jamais manifesté la moindre peur des chats. Les caractéristiques physiques inhabituelles du fou, l'absence de pigmentation de la peau par exemple, semblent des traits appartenant à son autre ascendance plutôt qu'une aberration individuelle, bien qu'en ceci je puisse me tromper lourdement. Lorsque l'on parle du fou, ce que nous ignorons est presque plus significatif que ce que nous savons. Son âge à l'époque de son arrivée à Castelserre reste du domaine de l'hypothèse. D'expérience personnelle, je puis témoigner que le fou paraissait alors beaucoup plus jeune, et en tout domaine plus juvénile qu'aujourd'hui. Mais comme il présente peu de signes de vieillissement, il se peut qu'il n'eût pas été alors aussi jeune qu'il le paraissait, mais plutôt qu'il parvint au terme d'une enfance prolongée. On a beaucoup débattu du sexe du fou. Quand plus jeune, et plus direct que je ne le suis aujourd'hui, je l'interrogeais sur la question, il me répondit que cela ne regardait personne d'autre que lui-même. Ce dont je conviens. Quant à sa préscience et aux formes fâcheusement vagues qu'elle prend, il n'existe pas de consensus pour dire s'il s'agit d'un talent racial ou individuel. Certains croient qu'il devine tout à l'avance, et quand on parle de lui quelque part, il le saurait aussi. D'autres affirment qu'il adore simplement s'écrier « Je vous l'avais bien dit !» et que, dans ce but, il reprend ses déclarations les plus obscures et les transforme, à force de contorsion, en prophétie. Ce fut peut-être vrai dans certains cas, mais dans de nombreux autres, il a prédit, devant témoins et de façon certes plus ou moins absconse, des événements qui se sont réalisés par la suite. La faim me réveilla peu après minuit. Je restais allongé à écouter mon estomac gronder. Je refermais les yeux, mais j'étais si affamé que j'en avais la nausée. Finalement, je me levai et m'approchai à tâtons de la table où s'était trouvé le plateau de pâtisserie. Mais les serviteurs l'avaient emporté. Je délibérai avec moi-même et mon estomac l'emporta sur ma raison. J'ouvris donc sans bruit la porte de la chambre et sortis dans la pénombre du couloir. Les deux hommes que Vérité y avait postés me jetèrent un regard interrogateur. « Je meurs de faim, » expliquai-je. « Vous avez repéré les cuisines ?» Je n'ai jamais connu de soldat qui ne sût pas où se trouvaient les cuisines. Je les remerciai en promettant de leur apporter quelque chose, puis m'enfonçai dans l'ombre du couloir. Dans l'escalier, j'éprouvais une curieuse impression à sentir du bois sous mes pieds, et non de la pierre. Je me déplaçais comme Imbre me l'avait enseigné, en marchant sans bruit, uniquement dans les parties les plus sombres des couloirs et en rasant les murs, là où les lattes risquaient moins de craquer. Et tout cela me paraissait naturel. Le château dormait apparemment à point fermé. Les rares gardes que je croisais somnolaient presque tous. Aucun ne m'interpella. Sur le moment, je mis cela sur le compte de ma discrétion. Aujourd'hui, je pense qu'un garçon maigrichon, aux cheveux ébouriffés, ne constituait pas une menace suffisante pour qu'il s'y intéresse. Je découvris les cuisines sans difficulté. C'était une vaste salle, avec un sol et des murs de pierre pour éviter les risques d'incendie, et trois grandes cheminées dont les feux étaient couverts pour la nuit. Malgré l'heure tardive ou matinale, selon le point de vue, la pièce était bien éclairée. Les cuisines d'un château ne sont jamais complètement endormies. Je vis les casseroles couvertes et sentis l'odeur du pain en train de lever. Une grosse marmite de ragoût chauffée au coin d'un des âtres. Soulevant le couvercle, je constatais que la disparition d'un bol ou deux de ce contenu passerait inaperçue. Je touillais dedans, puis me servis. Je coupai l'entame d'une miche de pain enveloppée dans un linge sur une étagère et découvris dans un autre coin de la salle un bac de beurre mis au frais dans un grand tonneau plein d'eau. Dieu merci, plus de fantaisie, mais de la nourriture simple et consistante comme j'en avais rêvé toute la journée. Je terminai mon second bol lorsque j'entendis des pas légers. Je levai les yeux avec mon sourire le plus désarmant, en espérant que la cuisinière aurait le cœur aussi tendre que celle de Castelserre. Mais c'était une servante en chemise de nuit, une couverture sur les épaules et son bébé dans les bras. Elle pleurait. Je détournai le regard, gêné. Mais c'est à peine si elle m'accorda un coup d'œil. Elle déposa son enfant enveloppé de tissu sur la table et alla chercher un bol qu'elle emplit d'eau fraîche sans cesser de murmurer. Elle se pencha sur l'enfant.
« Tiens, mon mignon, mon agneau, tiens, mon chéri, ça va te faire du bien. Bois un peu.
Oh, mon amour, tu peux même pas laper. Ouvre la bouche, alors.
Allons, ouvre la bouche. »
Je ne pus m'empêcher de regarder. D'une main, elle s'efforçait maladroitement de porter le bol contre les lèvres du bébé. De l'autre, elle essayait de lui ouvrir la bouche, en y mettant plus de force que je n'avais jamais vu une mère en employer avec son enfant. Elle souleva le bol et l'eau déborda. J'entendis un gargouillis étranglé, puis un hoquet annonciateur de vomissement. Comme je bondissais pour protester, une petite tête de chien émergea du tissu.
« Oh, il recommence à s'étouffer. Il est en train de mourir. Mon petit bichonnet à l'agonie et personne ne s'en inquiète que moi. Il râle en respirant et je ne sais pas quoi faire. Il est en train de mourir. »
Elle serrait contre elle le chien qui hoquetait en s'étranglant. Il secoua violemment la tête, puis retomba inerte. Si je n'avais pas entendu sa respiration laborieuse, j'aurais juré qu'il venait de mourir. Ses yeux noirs et globuleux croisèrent les miens, et je sentis tout l'affolement et toute la douleur de la petite bête.
« Du calme. »«
Allons, » m'entendis-je dire. « Vous ne lui faites pas de bien en le tenant serré comme ça. Il peut à peine respirer. Posez-le. Enlevez-lui toutes ses couvertures. Laissez-le décider dans quelle position il est le plus à l'aise. Tout en mitouflé comme ça, il a trop chaud. Alors il allaite. » Et il s'étrangle du même coup. Posez-le. Elle avait une tête de plus que moi, et je crus un instant devoir le lui arracher de force. Mais elle me laissa lui prendre le chien et lui ôter plusieurs épaisseurs de tissu. Je l'installai sur la table. La petite bête était dans la détresse la plus totale. Il resta debout, la tête lui pendant entre les pattes avant. Il avait le museau et le poitrail luisant de salive, le ventre distendu et dur. Il se remit à essayer de vomir. Ses petites mâchoires s'ouvrirent grand, ses lèvres se retroussèrent, découvrant ses minuscules dents pointues. La rougeur de sa langue attestait de la violence de ses efforts. La jeune fille poussa un cri et se précipita, mais je la repoussai rudement. « Ne le touchez pas, » fis-je d'un ton impatient. « Il essaye de se débarrasser de quelque chose, et il n'y arrivera pas si vous lui écrasez le ventre. » Elle s'immobilisa.
« Il essaie de se débarrasser de quelque chose ?»
À son air et à ses réactions, on dirait qu'il a quelque chose de coincé dans le gosier. Est-ce qu'il aurait pu avaler des os ou des plumes? Elle prit l'air affligé.
Il y avait des arêtes dans le poisson, mais toutes petites.
Du poisson? Mais qui est l'imbécile qui lui a laissé manger du poisson? Était-il frais ou pourri? À la période du frais, j'avais vu ce qu'un saumon pourri trouvé sur la berge d'une rivière pouvait faire à un chien. Si c'était ce que cette bestiole avait ingurgité, elle était fichue.
Il était frais et bien cuit, la même truite que celle que j'ai eue au dîner.
Bon, au moins, il y a peu de chances qu'il s'empoisonne. C'est donc une arête. Mais s'il l'avale complètement, il en mourra sans doute. Elle émit un hoquet d'horreur.
Non, c'est pas possible. Il ne doit pas mourir. Ça va aller. Il a seulement mal au ventre. Je lui ai donné trop à manger, c'est tout. Il va s'en remettre. Qu'est-ce que vous y connaissez de toute façon, vous, un marmiton ?
Je regardais son chien essayer à nouveau de vomir. Il en était presque convulsé, mais rien ne sortit que de la bile jaunâtre. « Je ne suis pas marmiton, je suis garçon de chenil. Je m'occupe du molosse de vérité, si vous voulez tout savoir. Et si on n'aide pas cet animal, il va mourir, très bientôt. » Je saisis fermement son chien, tandis que sur son visage se peignait un mélange de respect et d'horreur.
« J'essaye de t'aider. »
Il ne me crut pas. Je lui écartai les mâchoires de force et lui introduisit deux doigts dans la gorge. Les haut-le-cœur devinrent plus violents encore, et l'animal se mit à pédaler frénétiquement des pattes de devant. Il aurait bien eu besoin de se faire raccourcir les griffes. Du bout des doigts, je tâtai l'arête. Je la sentis bouger. Mais elle était enfoncée de biais dans l'œsophage. Le chien poussa un hurlement étranglé et se débattit furieusement dans mes bras. Je le lâchai. « Bon, eh bien il ne s'en débarrassera pas sans un coup de main, » fis-je. Je laissai la servante pleurnicher sur son animal. Au moins, elle s'était retenue de le reprendre contre elle. J'allai pêcher une poignée de beurre dans le tonneau et la déposai dans mon bol à ragoût. À présent, il me fallait un objet crochu ou plié, selon un angle très fermé, mais pas trop grand. Je fouillai coffre et huche et mis finalement la main sur un crochet de métal muni d'une poignée, qui servait peut-être à retirer les marmites brûlantes du feu. « Asseyez-vous, » ordonnai-je à la servante. Elle me regarda bouche bée, puis s'installa d'un air soumis sur le banc que je lui désignais. « Maintenant, tenez-le fermement entre vos genoux, et ne le lâchez sous aucun prétexte, qu'il se débatte, qu'il griffe ou qu'il glapisse, et coincez-lui les pattes avant, qu'il ne me mette pas les bras en lambeaux pendant que je travaille. Compris ?» Elle inspira profondément, déglutit et fit oui de la tête. Son visage ruisselait de larmes. Je lui installai le chien sur les genoux, puis, lui prenant les mains, les posai sur l'animal. « Tenez-le solidement, » lui recommandai-je. Je m'emparai d'un gros morceau de beurre. Ça va me servir à lui graisser la gorge. Ensuite, je vais lui ouvrir la gueule, crocher l'arête et l'extraire. Vous êtes prête ? » Elle acquiesça. Elle avait cessé de pleurer et ses lèvres avaient un pli résolu. Je fus soulagé de lui découvrir un peu de volonté, et je hochai la tête. Introduire le beurre ne posa pas de problème, mais la substance obstrua la gorge du chien dont la panique s'accrut. Les vagues de terreur qu'il émettait mirent à mal mon sang-froid. Sans douceur, je lui ouvris les mâchoires et lui enfonçai le crochet dans le gosier. J'espérais ne pas lui déchirer les chairs. Sinon, eh bien, il était condamné de toute façon. Pendant que je faisais tourner l'ustensile au fond de sa gorge, il se mit à se tortiller, à glapir et à inonder sa maîtresse d'urine. Le crochet agrippa enfin l'arête, et je l'attirai vers moi sans à-coups et d'un mouvement ferme. Elle sortit accompagnée d'un mélange de salive, de bile et de sang. Ce n'était pas une arête, mais un méchant petit os, un bout de bréchet de petit oiseau. Je le jetai sur la table. « Il ne faut pas non plus lui donner d'os de volaille !» dis-je d'un ton sévère. Je crois que la jeune fille ne m'entendit même pas. Son chien respirait en sifflant, mais l'air soulagé, sur ses genoux. Je pris l'assiette d'eau et la lui tendis. Il la renifla, la pâ un peu, puis se roula en boule, épuisé. Elle le souleva et le serra contre elle, la tête penchée sur lui. « Je voudrais vous demander quelque chose, » fis-je. « Tout ce que vous voulez. » La fourrure du chien étouffait ses paroles. « Vous n'avez qu'à demander. » « D'abord, ne lui donnez plus ce que vous mangez vous-même. Donnez-lui de la viande rouge et du grain bouilli, pour commencer. Et pour un chien de sa taille, pas plus que ce que peut contenir votre main. Ensuite, cessez de le prendre tout le temps dans vos bras. Faites-le courir pour qu'il se muscle et qu'il s'use les griffes. Enfin, baignez-le, il pue du poil et de la gueule parce qu'il a une nourriture trop riche. Sinon, je ne lui donne pas plus d'un an ou deux à vivre. » Elle me regarda, effarée, et porta une main à sa bouche. Et quelque chose dans son geste, si semblable à sa façon maladroite de toucher ses bijoux pendant le dîner, me fit soudain comprendre qui j'étais en train de rabrouer. Dame grâce, et j'avais fait pisser son chien sur sa chemise de nuit. Mon visage dut me trahir, car elle eut un sourire ravi et serra davantage son animal contre elle. Je suivrai vos conseils, mon garçon, mais pour vous-même, ne souhaitez-vous rien en récompense ? Elle s'attendait que je demande de l'argent, voire une place dans sa domesticité. Mais je la regardais d'un air aussi posé que possible, et déclarais « S'il vous plaît, Dame Grâce, je vous prie de demander à votre seigneur de garnir la tour de l'île du Guet avec ses meilleurs hommes, afin de mettre un terme à la discorde entre les duchés de Ripon et de Orfon. »
« Quoi ?»
Ce simple mot en disait long sur elle. Ce n'était pas Dame Grâce qui avait appris cet accent et cette inflexion. « Demandez à votre seigneur de bien équiper ses tours en hommes. Je vous en prie. »
« Pourquoi un garçon de chenil s'intéresserait-il à ce genre de choses ?
La question était par trop brutale. J'ignorais où Kelvar avait trouvé sa femme, mais elle n'était pas de haute naissance ni de grande fortune. Son air enchanté quand je l'avais reconnue, le fait d'avoir amené son chien dans le confort familier des cuisines, toute seule, drapée dans sa couverture, tout cela dénonçait la fille du commun élevée trop vite et trop au-dessus de sa condition d'origine. Elle était seule, irrésolue, et nul ne lui avait enseigné ce que l'on attendait d'elle. Pis, elle se savait ignorante, et ce savoir la rongeait, teintait de peur tous ses plaisirs. Si elle n'apprenait pas à se conduire en duchesse avant l'extinction de sa jeunesse et de sa beauté, elle se préparait de longues années de solitude et de moquerie. Il lui fallait un mentor, un précepteur secret comme Imbre. Elle avait besoin des conseils que je pouvais lui donner et sans perdre de temps. Mais je devais avancer avec prudence, car elle n'accepterait pas les conseils d'un garçon de chenil. Seule une fille du commun les écouterait et, si elle était sûre de quelque chose, c'est qu'elle n'était plus une fille du commun, mais une duchesse. « J'ai fait un rêve, » dis-je, pris d'une inspiration subite. Très clair, comme une vision ou un avertissement. Ça m'a réveillé et j'ai senti que je devais descendre aux cuisines. Mon regard se fit lointain. Ses yeux s'agrandirent. Je la tenais. J'ai rêvé d'une femme qui prononçait de sages paroles et transformait trois jeunes hommes en un mur uni que les pirates rouges ne pouvaient rompre. Elle se tenait devant eux, des bijoux dans les mains, et elle leur disait « Que les tours de guet brillent plus fort que les pierres de ses bagues, que les hommes qui les occupent entourent nos côtes comme ces perles entouraient mon cou, que les forteresses retrouvent une force nouvelle contre ceux qui menacent notre peuple, car je serai fier de marcher sans ornement devant le roi et les gens du commun, sachant que les défenses qui protègent notre peuple sont les joyaux de notre terre. Et le roi et ses ducs sont restés stupéfaits devant la sagesse de son cœur et la noblesse de ses actes. Mais son peuple ne lui en apportait que davantage d'affection, car il savait qu'elle l'aimait plus que l'or ou l'argent. » C'était un discours maladroit, beaucoup moins habile que je ne l'aurais voulu, mais il toucha l'imagination de mon auditrice. Elle se voyait déjà dressée, altière, devant le roi servant et le laissant foudroyer d'étonnement par son sacrifice. Je sentis en elle le désir brûlant de se distinguer, de susciter l'admiration du peuple dont elle était issue. Elle était peut-être autrefois fille de laiterie ou de cuisine et demeurait-elle aux yeux de ceux qui l'avaient connue alors. Ce geste leur montrerait qu'elle n'était désormais plus seulement duchesse par le titre. Le seigneur Shemshai et sa suite rapporteraient son acte de noblesse jusque dans le duché de Horfond. Les chansons des ménestrels célébreraient ses paroles, et pour une fois, elle surprendrait son époux, qu'il la considère dorénavant comme quelqu'un qui se préoccupait de sa terre et de son peuple, et plus comme un joli petit animal capturé grâce à son rang. J'avais presque l'impression de voir les pensées défiler dans sa tête. Son regard s'était fait distant, et un sourire absent jouait sur ses lèvres. « Bonne nuit, jeune homme, » dit-elle à mi-voix, et elle quitta la cuisine d'un pas rêveur, son chien pelotonné contre son sein. Elle portait la couverture qui lui protégeait les épaules comme un manteau d'hermine. Demain, elle jouerait son rôle à la perfection. Je souris brusquement, en me demandant si je n'avais pas mené ma mission à bien en me passant de poison. Certes, je n'avais pas vérifié si Kelvar était ou non coupable de trahison, mais à mon sentiment, j'avais tranché la racine du problème. J'étais prêt à parier que les tours de guet seraient équipées convenablement avant la fin de la semaine. Et je regagnais mon lit. Avant de partir, j'avais chipé une miche de pain frais. Je l'offris aux gardes qui me laissèrent rentrer chez Vérité. Quelque part, à l'autre bout de garde-baie, quelqu'un annonça l'heure à plein poumon. Je n'y prêtais guère attention. Je m'enfouis sous mes couvertures, le ventre en paix et la tête déjà pleine du spectacle qu'offrirait Dame Grâce le lendemain. Tout en m'assoupissant, je pariais qu'elle porterait quelque chose de simple, une robe droite et blanche, et que ses cheveux seraient défaits. Je ne devais jamais le vérifier. Je dormais depuis quelques instants à peine, me sembla-t-il, lorsqu'on me secoua l'épaule. J'ouvris les yeux pour découvrir Charim penché sur moi. La pâle lumière d'une bougie créait des ombres démesurées sur les murs de la chambre.
Réveillez-vous, Fitz,
chuchota-t-il d'une voix rauque. Un coursier vient d'arriver au château envoyé par Dame Tin. Elle réclame votre présence immédiatement. On est en train de préparer votre cheval.
Moi ?
Fis-je bêtement.
Naturellement. Je vous ai sorti des vêtements. Habillez-vous sans bruit. Vérité dort encore.
Qu'est-ce qu'elle me veut ?
Mais j'en sais rien, moi. Le message ne le disait pas. Elle est peut-être malade. Le coursier a seulement dit qu'elle a besoin de vous tout de suite. On vous éclairera quand vous y serez, je suppose.
Maigre consolation. Mais cela suffit à exciter ma curiosité, et quoi qu'il en fût, je devais obéir. Je ne savais pas exactement quel rapport Dame Tin avait avec le roi, mais elle se trouvait bien au-dessus de moi en importance, et je n'osais pas braver son ordre. Je me vêtis donc rapidement à la lumière de la bougie et quittai ma chambre pour la seconde fois de la nuit. Pogne m'avait scellé suie et m'accueillit avec quelques plaisanteries grivoises sur mes convocations nocturnes. Je lui suggérai une distraction qui pourrait l'occuper le restant de la nuit et m'en allai. Les gardes, avertis de mon passage, me firent sortir sans encombre du château, puis des fortifications. Par deux fois, je me trompais de direction dans la ville. Tout semblait différent de nuit, et je n'avais guère fait attention au chemin à l'aller. Enfin, je tombai sur la cour de l'auberge. La propriétaire, inquiète, était debout, et une lumière brillait à sa fenêtre.
« Ça fait presque une heure qu'elle se plaint et qu'elle demande après vous, messire, » me dit-elle d'un ton angoissé. « J'ai peur que ce ne soit grave, mais elle ne veut voir personne que vous. »
En hâte, je suivis le couloir jusqu'à la chambre de la vieille dame. Je frappai doucement, m'attendant à demi à l'entendre m'ordonner d'une voix stridente de m'en aller et de cesser de l'importuner. Mais non, c'est une voix chevrotante qui répondit.
« Oh, Fitz, c'est vous, enfin !» Entrez vite, mon garçon, j'ai besoin de vous.
Je pris une grande inspiration et soulevai le loquet. Je pénétrai dans la semi-obscurité et l'air confiné de la chambre en essayant d'éviter les diverses effluves qui assaillirent mes narines, et je me dis que la puanteur de la mort ne devait guère être pire. La seule source de lumière était une bougie qui gouttait dans sa bobèche. Je m'en saisis et m'aventurai vers le lit fermé de lourdes tentures.
« Dame Tin,
fis-je doucement.
« Qu'avez-vous ?
« Mon garçon. »
La voix provenait d'un angle de la chambre plongée dans l'obscurité.
« Imbre ! »
m'exclamai-je en me sentant soudain plus bête que je n'aime à me le rappeler.
« Je n'ai pas le temps de t'expliquer le pourquoi et le comment. Ne te fais pas de reproches, mon garçon. Dame Tin en a trompé plus d'un en son temps, et elle continuera encore longtemps. Du moins, je l'espère. » « Allons, fais-moi confiance et ne pose pas de questions. Contente-toi de faire ce que je te dirai. D'abord, va trouver l'aubergiste. Dis-lui que Dame Tin a eu une nouvelle attaque et qu'elle doit se reposer quelques jours. Qu'on ne la dérange sous aucun prétexte. Son arrière-petite-fille viendra s'occuper d'elle.
Qui ?
C'est déjà arrangé. Son arrière-petite-fille lui apportera de quoi manger et tout ce dont elle a besoin. » Insiste bien sur le fait que le repos et la solitude lui sont absolument nécessaires. Vas-y tout de suite.
J'y allais et je fus très convaincant, car de fait, j'étais encore sous le choc. L'aubergiste me promit de ne permettre à personne, fût-ce de frapper, à une porte chez elle, car elle regretterait fort de perdre la bonne opinion de Dame Tin sur son établissement et son commerce, d'où je déduisis que Dame Tin la payait grassement. Je rentrai discrètement dans la chambre en refermant sans bruit la porte derrière moi. Imbre tira le verrou et alluma une bougie à la flamme mourante de la première. Puis, il étala une petite carte sur la table. Je notai qu'il était vêtu comme pour voyager, manteau, bottes et pourpoint noir. Il paraissait soudain changé, plein de santé et d'énergie, et je me demandai si le vieillard à la robe usée était aussi un rôle qu'il jouait. Il leva les yeux vers moi, et je jure que l'espace d'un instant, j'eus l'impression d'avoir Vérité, le soldat, devant moi. Mais il ne me laissa pas le temps de rêvasser.
« Les choses iront comme elles iront, entre Calvar et Vérité. D'autres affaires nous appellent. J'ai reçu un message ce soir. Les pirates rouges ont frappé chez nous, à Forge, si près de Castelserre, que ce n'est plus seulement une insulte, mais une véritable menace. » Et ce, pendant que Vérité se trouve à Finbay. Il le savait ici.
loin de Castelserre, et qu'on ne me dise pas le contraire. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pris des otages, et les ont emmenés à bord de leur navire, et ils ont dépêché un messager à Castelserre, au roi subtil lui-même. Ils exigent de l'or, beaucoup d'or, sans quoi ils renverront les otages dans leur village.
Ils les exécuteront, vous voulez dire, non ?
Non.
Imbre secoua la tête d'un air irrité, comme un ours importuné par des abeilles.
Non.
Le message était parfaitement clair. Si l'or leur est livré, ils les tueront. Sinon, ils les relâcheront.
L'homme était de forge. Sa femme et son fils avaient été enlevés.
Telle était bien la menace. Il a bien insisté.
Je ne vois pas où est le problème dans ce cas,
fis-je d'un ton dédaigneux.
Au premier abord, moi non plus.
Mais l'homme qui apportait le message à Subtil tremblait encore de frayeur, malgré sa longue chevauchée. Il était incapable d'expliquer pourquoi, ni même s'il fallait ou non payer la rançon. Il ne savait que répéter que le capitaine souriait en lui remettant l'ultimatum et que les autres pirates riaient sans pouvoir s'arrêter.
Nous allons donc enquêter sur place, toi et moi. À l'instant, avant toute réponse officielle du roi, avant même que vérité ne soit mise au courant. À présent, sois attentif. Voici la route par laquelle nous sommes venus. Tu vois comme elle suit la courbe de la côte. Et voici la piste que nous allons prendre. Elle est plus directe, mais plus escarpée et marécageuse par endroits, si bien que les chariots ne l'empruntent jamais. Mais elle est plus rapide pour des hommes à cheval. Là, une embarcation nous attend. En traversant la baie, nous nous épargnerons pas mal de milles et d'heures de voyage. Nous aborderons ici, et ensuite, on file sur Forge.
J'étudiai la carte. Forge se trouvait au nord de Castelserre. Quel délai avait-il fallu à notre messager pour parvenir jusqu'à nous? Et le temps que nous arrivions sur place, la menace des pirates rouges n'aurait-elle pas déjà été mise à exécution? Mais il était inutile de perdre son temps en questions oiseuses.
« Avez-vous un cheval ?»«
C'est arrangé, par celui qui m'a livré le message. Il y a un bai dehors, avec trois pattes blanches. Il est pour moi. Le messager fournira également une arrière-petite fille à Dametin, et le bateau nous attend. Allons. »
« Une dernière chose, » dis-je, en feignant de ne pas voir le froncement de sourcils d'Imbre. « Il faut que je sache, Imbre. » « Vous trouvez-vous ici parce que vous ne me faites pas confiance ?»«
C'est de bonne guerre, je reconnais. »« Non, j'étais ici pour laisser traîner mes oreilles dans la ville, pour écouter les commérages comme toi au château. Les bonnes tiers et les mercières peuvent en savoir plus long que le grand conseiller du roi, sans même en avoir conscience. »«
Bien, partons-nous à présent. » Nous partîmes. Le cheval bai nous attendait à la porte de service que nous empruntâmes. Sui ne l'estimait guère, mais elle n'oublia pas ses bonnes manières. Je sentais l'impatience d'Imbre. Cependant, il nous imposa une allure posée tant que nous n'eûmes pas laissé les rues pavées de Finbay derrière nous. Une fois dépassées les lumières des dernières maisons, nous lançâmes les chevaux au petit galop. Imbre me précédait, et je m'émerveillais de sa qualité de cavalier et de son talent à se repérer sans effort dans le noir. Sui n'appréciait pas cette course dans la nuit. Sans la lune presque pleine, je crois que je n'aurais pas pu la persuader de rester à la hauteur du bai. Je n'oublierai jamais cette randonnée nocturne. Non parce que c'était une chevauchée effrénée pour secourir les habitants de Forge, mais justement, parce que ce n'en était pas une. Imbre nous guidait et traitait les chevaux comme s'il s'agissait de pions sur un échiquier. Il ne jouait pas vite, il jouait pour gagner. Et c'est pourquoi, par moments, nous ramenions nos montures au pas pour les laisser reprendre souffle, et par endroits, nous mettions pied à terre et les conduisions à la main pour leur faire franchir certaines zones dangereuses. L'aube grisaillait l'atmosphère quand nous fîmes halte pour manger des provisions tirées des fontes d'Imbre. Nous étions au sommet d'une colline si boisée qu'on distinguait à peine le ciel. J'entendais le bruit de l'océan. J'en sentais l'odeur, mais j'étais incapable de l'apercevoir. Notre piste était devenue moins qu'un chemin sinueux, tout juste une sente de serre à travers bois. Maintenant que nous ne nous déplacions plus, j'éprouvais par l'ouïe et l'odorat la vie qui nous entourait. Le chant des oiseaux, le mouvement des petits animaux dans les taillis et dans les branches qui nous surplombaient. Après s'être retiré, Ambre s'était laissé choir sur une plaque de mousse épaisse, le dos contre un arbre. Il but un long trait d'une outre d'eau, puis un autre, plus court, d'une flasque d'eau-de-vie. Il paraissait fatigué, et la lumière du jour accusait son âge plus cruellement que celle des lampes. Je me demandais s'il tiendrait jusqu'au bout du voyage.
« Ça ira, » dit-il, en surprenant mon regard. « J'ai accompli des missions plus ardues en dormant moins. Par ailleurs, nous aurons 5 ou 6 bonnes heures pour nous reposer sur le bateau, si l'eau est calme, et donc notre content de sommeil. Remettons-nous en route, mon garçon. »
2 heures plus tard, notre chemin se divisa, et encore une fois, nous prîmes le plus touffu. Très vite, je me retrouvai presque couché sur l'encolure de suie pour éviter les basses branches. Il faisait chaud et humide sous les arbres, et des myriades de petites mouches piqueuses nous harcelaient, tourmentaient les chevaux et s'infiltraient sous nos vêtements pour se repaître de notre chair. Elles étaient si nombreuses que, lorsque je rassemblais assez de courage pour demander à Ambre si nous ne nous étions pas à égarer, j'en eus aussitôt la bouche pleine au point de m'étouffer. Vers midi, nous débouchâmes sur un coteau venteux et plus dégagé, et je revis l'océan. Le vent rafraîchit les chevaux en sueur et chassa les insectes. Quel plaisir de pouvoir se tenir à nouveau droit dans sa selle. La largeur de la piste me permettait de marcher de front avec Ambre. Ses marques livides ressortaient durement sur son teint pâle, le faisant paraître encore plus exsangue que le fou. Des cernes sombres soulignaient ses yeux. Il surprit mon regard et fronça les sourcils.
« Fais-moi ton rapport, au lieu de me dévisager comme un simple d'esprit, »
m'ordonna-t-il d'un ton sévère, et je m'exécutai. J'avais du mal à surveiller à la fois la piste et son visage, mais la seconde fois qu'il grogna, je lui jetai un coup d'œil et lui vis un sourire à la fois amer et amusé. J'achevai mon rapport et il hocha la tête.
« Toujours la chance, cette même chance qu'avait ton père. Ta diplomatie de cuisine suffira peut-être à retourner la situation, si elle se résume à ça. Les potins que j'ai entendus allaient dans le même sens. Ma foi, Kelvar était un bon duc avant de se marier, et apparemment tout provient de ce que sa jeune épousée lui est montée à la tête. »
Brusquement, il soupira.
« Néanmoins, la conjonction d'événements est malheureuse, avec d'un côté Vérité qui va réprimander un homme parce qu'il s'occupe mal de ses tours, et de l'autre une attaque sur une ville de Castelserre. Sacre bleu, il y a tant d'éléments que nous ignorons. Comment les pirates ont-ils pu passer nos tours sans se faire repérer? Comment savait-il Vérité absent de Castelserre? Et le savait-il vraiment? Était-ce un simple coup de chance en leur faveur? Et que signifie cet étrange ultimatum? Est-ce une menace ou une raillerie? »
Il se tut un moment.
« J'aimerais être au courant des mesures que Subtil aura prises. Quand il m'a envoyé le messager, il n'avait pas encore décidé. Si ça se trouve, tout aura été réglé lorsque nous arriverons à Forge. Et j'aimerais aussi savoir le message exact qu'il a artisé à Vérité. Autrefois, dit-on, lorsque nombreux étaient ceux conformés à l'art, un homme était capable de percevoir ce que son chef pensait rien qu'en se taisant et en écoutant attentivement. Mais ce n'est peut-être qu'une légende. Aujourd'hui, rares sont ceux à qui on enseigne l'art. Et c'est au roi Bonté qu'on le doit, je crois. Si l'art demeure un secret, l'instrument d'une élite, il prend davantage de valeur. Tel était son raisonnement. Je ne l'ai jamais bien compris. Qu'adviendrait-il si l'on en disait autant des bons archers ou des bons navigateurs? Cependant, l'aura du mystère peut accroître le statut d'un chef. Ce n'est pas faux. Quant à un homme comme Subtil, savoir que ses subalternes se demandent s'il est réellement capable de lire leurs pensées sans qu'ils disent mot, voilà qui lui plairait.
Oui,
voilà qui lui plairait fort.
Je crus d'abord Ambre inquiet, voire en colère,
Jamais je ne l'avais entendu traiter d'un sujet d'une manière aussi décousue. Mais quand son cheval fit un écart devant un écureuil qui croisait son chemin, il manqua d'un cheveu de tomber de sa selle. Je m'emparai de ses rênes. « Vous allez bien ? Que vous arrive-t-il ? » Il secoua lentement la tête.
« Rien. Une fois au bateau, ça ira. Continuons. Ce n'est plus très loin. »
De pâle, il était devenu grisâtre, et à chaque pas de son cheval, il chancelait sur sa selle. « Reposons-nous un peu ? » proposai-je.
« La marée n'attend pas. Quant à me reposer, cela ne servirait à rien si je passais mon temps à imaginer notre embarcation se fracassant sur les rochers. Non, il faut continuer. »
Et il ajouta, « Fais-moi confiance, mon garçon.
Je connais mes limites, et je n'aurai pas la bêtise de m'aventurer au-delà. »
Nous poursuivîmes donc notre route. Il n'y avait guère d'autre choix. Mais je restais à la hauteur de la tête de sa monture, d'où je pourrais saisir ses rênes en cas de besoin. Le bruissement de l'océan devenait plus fort, et le chemin plus escarpé. Je me retrouvais bientôt à ouvrir la marche, bien involontairement. Quittant les taillis, nous débouchâmes sur une falaise qui surplombait une plage sablonneuse.
« Eda, merci. Ils sont là !»
murmura Humbre dans mon dos, et j'aperçus alors l'embarcation à faible tirant d'eau près de la pointe, à la limite de l'échouage. L'homme de garde nouait là, en agitant son bonnet. Je levai le bras pour lui retourner son salut. Nous descendîmes avec force glissade, et Humbre embarqua aussitôt. Je me retrouvai seul pour me débrouiller avec les chevaux. Ni l'un ni l'autre ne manifestait d'empressement à s'avancer dans les vagues, et encore moins à se hisser sur le pont par-dessus le bastingage surbaissé. J'essayais de tendre mon esprit vers eux pour leur faire comprendre ce que je voulais, mais pour la première fois de ma vie, je me rendis compte que j'étais trop épuisé. Je ne parvenais pas à la concentration nécessaire. C'est donc seulement après avoir bu deux fois la tasse et avec l'aide de trois matelots sacrants à qui mieux mieux, que je parvins à faire monter les bêtes à bord. Le moindre bout de cuir, la moindre boucle de leur harnais était trempée d'eau de mer. Comment allais-je expliquer ça à Burick ? Je n'arrivais pas à penser à autre chose, tandis qu'installé à la proue, je regardais les rameurs courbés sur leurs avirons nous propulser en eau plus profonde.